Samarcande. Avec, par et pour les jeunes. Une heure de temps de parole.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Samarcande. Vous êtes sur le projet radiophonique de l'AMO Samarcande. Et vous êtes avec Clara et Joséphine en co-animation. Et aujourd'hui, nous accueillons une classe de l'Institut Reine Fabiola. Et je propose que l'on commence cette émission par faire un tour des prénoms. Et on va commencer à ma droite.
Inès.
Blackomen.
Samblaz.
Alessia.
Sana.
Le Sage.
Paloma.
Mohamed Ali.
T'as entendu ?
Victoria.
Jessica.
Serré.
Maria.
Elle est.
Merci à tous et bienvenue, merci de votre présence. Alors voilà, durant la préparation, nous avons décidé d'aborder quatre sujets. Ce sera celui de l'amour, de la relation parent-enfant, de la transition vers l'âge adulte et de réseaux sociaux et plus précisément le harcèlement. Alors voilà, on va commencer par le sujet de l'amour et j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que ça représente l'amour pour vous ? Dans votre vie. Est-ce que pour vous, il existe une seule forme d'amour ?
Aimer son prochain.
Aimer son prochain, ok.
L'amour familial.
L'amour familial.
L'amour fraternel. L'amour amical. Et l'amour amoureux. Al.
Et est-ce que vous pensez que l'amour, donc vous avez dit donc l'amour familial, l'amour fraternel, amical, est-ce que vous pensez que toutes ces formes d'amour, elles durent toute une vie ?
Non.
Non, tu peux développer, s'il te plaît ?
Ça dépend. La façon dont chacun le vit ou le pense.
Les autres, vous avez une réaction peut-être ?
Pour moi, l'amour est éternel.
Effectivement, je suis d'accord avec mon camarade.
Moi aussi.
Ok. Donc toutes les formes d'amour seraient éternelles.
Effectivement.
Ouais. Ça dépend comment on l'entretient. Si la relation elle est bien, si c'est pas toxique, etc., bah, ça peut être éternel.
Et des relations toxiques, on en trouve dans toutes les formes d'amour.
Oui. Ça, c'est sûr.
Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait cette expérience-là, d'un amour toxique ?
Non.
Si.
Si. Et dans les relations amoureuses plus précisément, mais c'est vrai que ça peut se retrouver, enfin cette question peut aussi se retrouver dans les autres types de relations. Est-ce que vous, pour vous, la fidélité, c'est vraiment synonyme d'amour ?
Oui, mais pas que. Parce que si t'aimes, déjà tu trompes pas. Mais il n'y a pas que ça pour qu'un couple fonctionne.
C'est-à-dire ?
Bah, il faut donner de l'amour, être attentionné. Bah montrer qu'on est présent pour la personne. Et voilà.
Les autres, vous avez une réaction ?
Parce que l'amour, c'est un sujet que vous avez quand même à l'époque de la préparation, vous en avez beaucoup parlé.
Vous en avez beaucoup parlé.
Vous parlez de l'amour dans les relations de couple, l'amour familial.
C'est ça.
À quoi ça vous renvoie, vous, l'amour ? Pourquoi vous avez voulu parler d'amour ?
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de parler d'amour parce qu'ils n'arrivent pas à se confier aux gens. Il y a beaucoup de gens, ils ont besoin d'en parler parce qu'ils ne savent pas se confier à des personnes. Donc, c'est bien d'en parler, de l'amour. C'est pour ça que je crois qu'on a choisi le thème, amour.
Et aussi parce que c'est un sujet qui touche à peu près tout le monde.
Et l'amour, pour moi, c'est important parce que quand t'as pas l'amour, bah, tu tombes en dépression. Il y a beaucoup de... Comment on dit ?
On a tous besoin d'amour.
Ouais, voilà, c'est important dans la vie.
Donc on ne pourrait pas vivre sans amour.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
Si, on pourrait, mais en fait, ça dépend du caractère de chacun. Ça dépend du caractère de chacun, mais je pense qu'on a tous un peu besoin d'amour. Que ce soit de...
Des parents.
Des
ou...
parents, ouais, voilà.
Amitié.
Ok, merci à tous. Je propose qu'on commence par faire une première pause musicale et on va lancer Dadju par amour.
par amour j'ai dû affronter le regard de ton père. Par amour j'ai même fait semblant de regarder la mer. Tu dois sûrement te dire que c'était des paroles en l'air. Oui, par amour j'ai appris à ne plus voir tes défauts. Je suis pas d'accord mais je te laisse avoir le dernier mot. Mais par amour je t'ai donné ce que j'avais de plus beau. Et je refuse de vivre à travers le regard des autres. Des autres. Ou par amour j'étais prêt à donner même ce que je n'avais pas. J'ai su que c'était toi depuis le départ. Quand tu es loin de moi je me retrouve nulle part.
Les armes, moi j'y suis resté là. Rien n'éteindra la flamme.
Par amour.
La flamme.
Par amour, j'ai dû affronter le regard de ton père. Tu penses sûrement que c'est tes paroles en l'air. Par amour, j'ai même fait semblant de regarder la mer. Je n'arrive même plus à voir tes défauts. Je t'ai même laissé avoir le dernier mot. Je t'aurais même donné ce que je n'avais pas. J'ai su que c'était toi depuis le.
Et nous revoilà, nous sommes toujours en compagnie d'une classe de l'Institut Reine Fabiola et juste avant cette pause, nous parlions de l'amour, l'amour fraternel, l'amour familial, l'amour amical, mais aussi l'amour conjugal. Et moi j'ai envie de vous poser une question, est-ce que vous pensez que l'amour, les relations amoureuses, ça conduit toujours au mariage ?
Non.
Absolument pas.
Pas du tout.
D'accord. Donc on a plusieurs noms. Est-ce que vous pourriez développer pour vous ?
Bah déjà, même si des fois on se dit que ça peut mener au mariage, bah il y a beaucoup de péripéties qui peuvent faire que non.
Mm-hmm.
Donc par exemple, si moi je suis sûre de me marier avec la personne et qu'elle aussi, bah si par exemple la personne, je sais pas, elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre ou elle meurt ou elle fait un accident, etc. Bah ça peut tuer quelqu'un.
Stopper la relation.
Ouais, voilà, stopper la relation.
Moi, je pense que la communication aussi, c'est important dans un couple. Donc,
ouais.
S'il n'y a pas de la communication, bah, ça peut casser.
Mm-hmm.
Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une émission qui s'appelle « Marié au premier regard ».
Oui, je vois.
En France. Et donc, ce sont des personnes qui se marient sans se voir.
Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette émission ?
Un peu bizarre et intriguant.
Mm-hmm.
Je peux dire comme ça.
Après, il y en a, ils préfèrent tenir leur relation sans mariage et ça tiendra plus longtemps qu'avec un mariage.
Mm-hmm. Tout à fait. Il y a différents types de couples, différents types de relations, mais j'ai l'impression qu'on a un peu cette idée que en fait, le mariage, c'est quelque chose qui est très symbolique aussi dans la relation amoureuse. Que ça scelle en fait vraiment l'amour entre ces deux personnes et que donc c'est un symbole fort aussi dans la relation amoureuse. Mais donc est-ce que vous pensez donc effectivement qu'une relation qui n'est pas scellée par le mariage, ça peut aussi être une vraie relation d'amour malgré ce manque de symbole ?
Non, moi je trouve pas.
Mm-hmm.
Par rapport à mes religions et à mes traditions, je trouve que le mariage il est important dans un couple.
Mm-hmm.
Donc, voilà, je trouve que s'il n'y a pas de mariage pendant un certain temps, ça tiendra pas. Après, il faut aussi apprendre à connaître la personne avant de se marier, mais après un bout de temps, il faut se marier, je trouve.
Donc, dis-moi si je me trompe, mais donc ce que tu exprimes, c'est que l'amour, la relation, pour qu'elle dure, il faut qu'il y ait un mariage.
Pour moi, oui.
Mm-hmm.
Parce que par rapport à ma religion et mes traditions, je trouve que c'est comme ça chez nous, quoi.
Mm-hmm. Donc là, pour toi, c'est plus un symbole religieux aussi que tu associes au mariage.
Et je trouve que aussi se marier, genre, par exemple, si on se marie civilement, bah c'est difficile de séparer. Alors qu'il n'y a pas de mariage, un petit truc, on peut séparer chacun de notre côté. Et des fois, il y a un problème que d'une personne et l'autre personne pas. Donc je trouve qu'avec un mariage, c'est moins compliqué que sans mariage.
Okay. Et donc, on essaierait beaucoup plus de maintenir, de renforcer la relation parce qu'il y a un mariage. Et que donc, y a aussi toute une procédure qui suit si on ne veut plus être avec la personne.
Mais je trouve aussi que même par rapport aux enfants, quand il n'y a pas de mariage, c'est compliqué, il y a beaucoup de problèmes. Alors quand il y a un mariage, on est obligé de chacun de participer à la pension des enfants, etc. Donc je trouve que c'est mieux.
Et les autres, vous êtes d'accord ou pas ?
Oui.
Oui ?
Non, moi je ne suis pas d'accord.
Mm-hmm.
parce que je suis chrétienne, le mariage c'est important aussi pour nous, mais... Moi, je suis mitigée.
Ouais.
Voilà. Pour moi, le mariage, c'est pas forcément important dans un couple. on peut s'aimer sans pouvoir se marier. C'est tout.
Et pour les autres, est-ce que vous pensez que le mariage est toujours synonyme de relation durable, finalement ?
Non, parce qu'après, il y a des mariages, ils se marient pendant un mois, et deux mois après, ils sont devant les juges pour se séparer et avoir la garde alternée des enfants.
C'est ça.
Or, des relations parents séparés, des fois, c'est beaucoup mieux pour les enfants qu'avoir un mariage où ils ne s'entendent plus après deux mois.
Donc, pour vous, quelles seraient en vrai les conditions qui sont indispensables ou idéales pour qu'une relation d'amour dure et fonctionne ?
La fidélité.
La fidélité.
La confiance.
La confiance.
La communication.
Mmh. Le respect.
Mmh. Et faire beaucoup de cadeaux.
L'amour.
Non, parce que les cadeaux, ça ne veut rien dire en soi.
Aussi, les humeurs aussi.
Les humeurs. Ouais. Donc, attends, il y avait une réaction de...
Les cadeaux, ça n'a pas d'importance dans un couple en soi. On peut très bien faire des activités avec la personne sans dépenser de sous, juste aller manger quelque part dans un parc avec ce que tu as déjà chez toi.
Petite soirée Netflix.
Un spa.
Mohamed, vous voulez réagir ?
Ouais, je voulais dire une petite soirée aromatique, restaurant Netflix.
Et toi, tu parlais aussi des humeurs. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça ?
Ça dépend, genre quand t'es de mauvaise humeur, ça peut aussi, enfin, déplaire à la personne, c'est ça ?
Mais il y en a aussi, ça atteint sur eux. Si leur compagnon n'est pas fatigué et remet ça sur l'autre, c'est les deux qui vont se disputer 10 fois plus vite. Voilà.
Mais il faut essayer de se comprendre les uns les autres. Enfin, si t'as un problème, il faut essayer de comprendre la deuxième personne. Enfin, ouais.
Donc il faut savoir aussi se mettre à la place de l'autre. Et savoir une relation, c'est pas toujours facile. Il faut aussi savoir faire des compromis aussi. Et prendre en considération vos besoins, mais aussi les besoins de la personne avec qui vous êtes.
Mais ça arrive d'être triste ou pas bien. Mm-hmm. C'est juste à l'autre personne à être là pour la personne. Parce que chacun peut être pas bien ou de mauvaise humeur, ça arrive à tout le monde.
Non, mais quand j'ai humeur, genre c'est tout le temps t'es comme ça. Je dis pas un jour... Quand t'es tout le temps en mauvaise humeur, c'est pas bien pour un couple aussi. Après, l'homme, il peut aller voir ailleurs ou... parce que... Bah, je sais pas.
Moi, Matt, tu veux... Qu'est-ce que tu dis ?
Bah, l'homme peut faire avec... peut se mettre à la place de femme et comprendre ce qu'elle a. Et peut-être pas réagir comme elle a réagi. Peut-être elle était... Elle est pas bonne humeur à ce moment-là. Bah, lui, non plus. Mais lui, il peut réagir autrement. Voilà.
Et est-ce que vous pensez que dans une relation de couple, le bonheur de votre partenaire passe avant le vôtre ?
Non.
Si, si.
Non, parce que ça peut être toxique de fou si on fait ça. Mm-hmm. C'est les deux bonheurs en même temps ou rien du tout.
Ok. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez ?
Il faut Il faut qu'il y ait un équilibre.
Mm-hmm. Tout à fait. Oui. Et tu voulais réagir ?
Non, moi aussi, je trouve que c'est les deux en même temps. Il ne faut pas penser à l'autre avant soi, mais il ne faut pas penser qu'à soi aussi. Il ne faut pas être égoïste.
Eh bien, merci pour vos réactions. Je propose qu'on passe au sujet suivant, à savoir donc, la relation entre les parents et les enfants. Et donc, vous parliez donc, d'amour, mais donc d'amour à la fois conjugal, mais aussi d'amour amical et aussi familial. Et moi, j'ai envie de vous poser, mais qu'est-ce qui fait qu'une relation parent-enfant, en fait, elle est bien vécue ?
La communication avec les parents.
Ouais. Donc on revient aux mêmes fondamentaux, à savoir la communication, savoir discuter.
Et aussi le fait que les parents mettent à l'aise l'enfant. Et dès le départ, genre des petits, ils leur disent, ils leur montrent qu'ils peuvent leur parler, qu'ils ne soient pas fermés, etc. Ça va mettre l'enfant en confiance et il va plus parler s'il y a un problème. Mm-hmm.
Parce qu'il y a des parents, ils comparent leurs enfants à d'autres. Du coup, les enfants ne veulent pas leur parler pour la comparaison.
Moi, je trouve que les parents, ils doivent parler avec leurs enfants et éviter de crier ou se fâcher, des choses comme ça, parce que ça va fermer l'enfant. Et je trouve que quand on confisque trop ou on interdit trop les choses aux enfants, ben les enfants, ils font ça dans le dos des parents. Mmh. Ils font ça en cachette et moi-même, je l'ai déjà vécu. Donc voilà.
Donc, c'est plus... la réaction des parents, ou la réaction négative donc des parents, qui va faire que l'enfant se sent moins en confiance de discuter, de se confier à lui. Et moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous, vous avez le sentiment de pouvoir vous confier facilement à vos parents ?
Pas trop, parce qu'il y a tout le temps des barrières. Mm-hmm. On se dit que si on dit des choses à nos parents, ils vont peut-être s'énerver ou quoi. Donc, mm-hmm. c'est pas tout le temps si facile, mais des fois, il y a des choses qu'on se dit, c'est mieux de se confier à nos parents parce qu'ils savent, enfin, ils savent quoi dire et ils savent que faire quand mm-hmm. ça va pas ou quoi.
Après, nos parents, ils ont fait les mêmes erreurs que nous avant, sûrement. Et je pense qu'ils ont plus peur pour nous, avec ce qui se passe de nos jours, que quand eux, ils vivaient avant.
Mais du coup, la réaction négative, la réaction, la punition, alors en fait, c'est plus une manière de s'inquiéter pour vous que vraiment d'être en colère contre vous, en
oui.
fait.
Oui.
C'est
la punition. Moi, je trouve pas, parce que moi, j'ai deux parents qui sont totalement différents. Mon papa, il est décédé, mais juste avant qu'il soit décédé, il était tout le temps dans la communication, il parlait beaucoup avec moi. Jamais il m'a crié dessus ou il m'a puni ou quoi que ce soit. Et avec toutes les paroles qu'il me disait et quand il me parlait, je comprenais mieux que, par exemple, avec ma mère, elle me punissait tout le temps, elle prenait mon téléphone, elle me criait dessus et tout. Et je comprenais beaucoup moins vite qu'avec lui. Lui, je lui disais tout, même si je faisais une bêtise ou quoi, je lui disais, alors que ma mère, je lui cachais tout le temps. Tout ce que je faisais, je le faisais dans son dos. Donc voilà.
Moi, pour moi, la punition, ça sert à rien. Parce que t'as beau à punir l'enfant, l'enfant va pas comprendre. Je pense que c'est avec les paroles que l'enfant comprend mieux. Si tu te poses bien avec l'enfant et que tu lui expliques, je pense que c'est plus facile de punir.
Les autres, vous avez une autre réaction ?
Et quand ils expliquent plutôt que punir, on a plus envie de nous confier aux parents. Parce que nous punir de téléphone, par exemple, c'est nous priver en soi de notre vie privée. Parce qu'on rentre de l'école. Souvent, quand il ne fait pas beau, on est sur notre téléphone, on passe le temps avec ça. Et après, ils s'étonnent qu'on fait plus de bêtises à côté. On ne leur montre pas juste ce qu'on fait.
Donc, vous cachez plus ce que vous faites, c'est ça ?
Oui.
Oui.
Okay. Et est-ce que vous vous sentez parfois en décalage avec l'éducation que vos parents vous donnent ?
Oui.
Oui ?
Oui, ça, c'est sûr.
Ouais. De quelle manière ? Est-ce que vous pourriez développer ?
Leur éducation est plus dure.
Ça dépend hein, des origines aussi, non ?
Non.
Ouais, si, si, c'est sûr. Surtout chez nous, ça dépend vraiment. Comme nous, on n'a pas l'éducation que les Européens, ils ont. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais nous, les Africains, on a vraiment une éducation un peu plus...
stricte.
Ouais, voilà, stricte.
Après, ça dépend. Il y a des Européens, ils ont une éducation super stricte hein, chez eux.
Ouais, mais c'est rare, je trouve.
On montre pas l'éducation qu'on reçoit. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est rare. Ça dépend des origines. Par exemple, moi, je suis algérienne et grecque. Et j'ai toujours vécu avec ma maman qui était algérienne. Et chez nous, les musulmans, c'est complètement différent que chez les Européens. Après, il y a des inconvénients comme des avantages dans chaque éducation. Mais je trouve aussi qu'être un peu strict, c'est bien aussi. Pas punir ou quoi, mais je veux dire mettre des limites et tout ça. Parce que personnellement, moi, avec l'éducation que j'ai eue de ma mère, j'ai bien grandi. Et j'ai des principes et des valeurs par rapport à certaines personnes. Voilà.
Et dans l'idée où vous êtes, où il y a des fratries, donc dans des familles où il y a des fratries, est-ce que vous avez déjà perçu des décalages dans l'éducation qui est donnée aux petits frères, aux petites sœurs ou inversement aux grands frères ?
Quand c'est pas les mêmes parents.
Non, enfin oui, pas, enfin, ça peut être pas les mêmes parents, mais aussi les mêmes parents. Ouais.
Mais le plus souvent, de toute façon, le petit dernier au sud du milieu, c'est celui qui sera le plus désiré. Le plus souvent.
Celui du milieu, je pense pas.
Non, moi je suis au milieu.
Après, ça dépend.
Moi je trouve pas aussi.
Moi j'étais la plus petite, j'ai toujours été la princesse en soi.
Non. Mm-hmm.
Moi je suis l'aînée et ma mère, elle fait la même chose elle fait la même chose avec moi qu'avec mes petites sœurs qui ont 2 ans et 3 ans. Donc moi je trouve que ça change rien.
Donc, Ellie, toi, tu disais que tu percevais la différence. Et est-ce que toi, tu penses que c'est normal qu'il y ait une...
Non, parce que ça montre que tu donnes plus d'amour à un enfant en particulier par rapport aux autres. Mm-hmm. Par exemple, maintenant, j'ai une petite sœur et je vois très bien qu'il a plus de complicité avec elle qu'avec moi quand j'étais petite ou à l'inverse. Après, c'est le manque aussi qui se crée. Là, il est resté, moi, il était parti. Du coup, c'est ça aussi que je sens la différence. Faut voir avec qui t'as grandi.
Après, moi, je trouve que c'est normal que les parents, ils donnent plus d'attention aux petits parce qu'ils ont plus besoin de leur maman. Nous, on est grands, on a aussi eu cette attention quand on était petits. Donc, c'est normal que les parents, ils s'occupent plus des bébés que des adolescents. Par exemple, même les attentions sont différentes. Le bébé, il a toujours besoin que la maman, elle soit là, elle le prenne, elle s'occupe de lui. Alors que nous, par exemple, elle fait des activités avec nous, elle nous parle, on regarde un film ensemble, c'est différent. Donc, je trouve que c'est normal qu'ils donnent plus d'attention aux petits.
Je suis tout à fait d'accord avec elle.
Mm-hmm. Après, ça dépend de la complicité de chaque enfant avec ses parents, hein, là-dessus. Parce qu'elle fait peut-être des activités, mais il y en a, ils rentrent, ils montent. Ils ne sont pas avec leur mère ou à parler avec eux.
Mm-hmm. Moi, pour moi, s'ils montent, c'est que la mère, aussi, elle a un rôle dans l'histoire. Enfin, elle a un rôle. Parce que si elle les aurait mis à l'aise ou que... Elle serait là pour eux, pour les écouter, etc. Je pense qu'ils seront peut-être moins renfermés. Et ça peut être en dehors de la famille. Par exemple, à l'école, s'ils ne se sentent pas bien et tout, ils rentrent, ils vont dans leur chambre. Mais si la mère, elle le voit et qu'elle n'essaye pas d'aller leur parler, bah, pour moi, elle a un rôle, quoi.
Il y aura un manquement des parents, de suite.
Voilà, ouais.
Ouais. Et ce serait quoi pour vous être un bon parent?
Mais
peut-être vous projetez déjà très loin.
Il n'y a jamais de bons parents en soi. Tous les parents font des erreurs.
Mmh. On n'est pas tous parfaits. Hein.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Mmh. Même quand nous, on sera parents, on fera peut-être les mêmes erreurs que nos parents. Ça, c'est pas le... Mais montrer à ton enfant que tu peux lui parler, c'est tout un truc dans notre vie aussi. On sait à qui se confier.
Pour moi, une mère, c'est... la personne à qui je pourrais le plus me confier et où je serais le plus sûre. Après, il y a des sujets où, par exemple, je préfère en parler à une amie ou à ma sœur ou quoi, mais pour moi, ma mère, elle peut toujours me donner les meilleurs conseils parce qu'elle a vécu ce que j'ai vécu, entre guillemets.
Après, moi, ma mère, j'ai toujours dit, c'est comme ma meilleure amie. Si il m'arrive un truc demain, c'est à elle que j'irai parler. Après, il y en a certains, ils vont parler à leur famille ou pas du tout à leur mère.
Est-ce qu'au fond, on n'aimerait pas tous pouvoir se confier à ses parents si. Comme on peut se confier à ses amis?
Oui.
Je ne sais pas.
Si, mais ça dépend. Il y a aussi quelques conversations que c'est un peu... Moi, par exemple, ma mère, il y a des conversations où je n'ose pas trop en parler avec elle. Je suis un peu gênée. C'est pas qu'elle va me dire quelque chose ou quoi, parce que maintenant, j'ai grandi, mais il y a des trucs que... Moi-même, je suis gênée. Je trouve que ça ne se fait pas d'en parler à sa mère. Je préfère parler avec une amie ou quoi, ou une cousine.
Après, voilà, il faut que les parents soient ouverts à toute conversation. Parce qu'on arrive à un âge tous où il y a des choses qui vont se faire, où on va grandir plus vite et tout. Donc, il y a un moment, nos parents doivent montrer qu'ils sont ouverts à toute conversation avec eux.
Mais dans certaines cultures, on ne peut pas être ouvert à tous les sujets, entre guillemets, avec son enfant. C'est-à-dire, dans certaines cultures, eux, par exemple, mes parents, ils ont grandi avec... des parents, on va dire, stricts. Donc, eux, ils ont pris cette éducation stricte. Donc, pour eux, il faut qu'ils me donnent l'éducation qu'ils ont eue. Sauf que les temps, les générations et tout, elles changent. Donc, forcément, ce ne sera pas identique à eux. Mais il y a certaines choses qu'on reprend d'eux.
D'Aznavour, la bohème.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, la bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Nous sommes de retour pour cette deuxième partie de l'émission. Et du coup, on parlait juste avant de la relation parent-enfant. Et pour clôturer ce sujet, moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que, selon vous, c'est quoi le rôle d'un parent ?
D'être présent pour l'enfant.
D'être à l'écoute et de mettre en confiance l'enfant, de le rassurer et voilà.
De nous aider à atteindre, de nous encourager à atteindre nos objectifs.
Mm-hmm. Effectivement.
Merci, Honnête.
Et est-ce que vous ne pensez pas aussi que le rôle d'un parent, c'est de vous accompagner aussi vers la vie qui vous attend plus tard, la vie d'adulte ?
Oui, c'est le rôle d'un parent. Oui.
C'est pour ça que nos parents nous encouragent à aller chercher un job étudiant.
Oui, mais des fois, ils vont trop vite. Ouais. Mm-hmm. Ils veulent trop vite nous voir grandir et nous mettre dans des... Voilà, nous préparer à la vie plus tard.
Oui. Mais pour moi, ils ont raison de faire ça. Parce que vaut mieux trop tôt que trop tard.
Effectivement.
Exactement.
Ils veulent nous préparer à la vie, en fait.
Inès, tu disais...
Je disais que pour moi, ils ont raison de faire ça parce que vaut mieux nous préparer plus tôt à l'âge, enfin, à la vie d'adulte que trop tard et qu'au final, on soit là, tout est devant nous et on ne sait pas quoi faire. Et même, on ne sait pas ce que demain est fait. Donc, si on ne nous prépare pas plus jeune, je ne le souhaite à personne, mais si demain, un de nos parents y décède, bah, qui va nous montrer tout ça ? C'est, pour moi, il n'y a que les parents qui peuvent nous montrer ça.
Bien dit,
Sommer. Je voulais réagir.
Là, je suis d'accord avec elle, par contre.
On avait parlé aussi. C'est quoi devenir un adulte ? C'est une grosse question, hein, c'est compliqué, mais qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot ?
Savoir faire seul les trucs qu'on devait faire avec nos parents avant.
Être autonome.
Être autonome ?
Moi, je pourrais dire coffrer.
Coffrer ?
Ouais, coffrer. Genre,
c'est quoi,
faire de plus d'argent possible.
Ah. Ok.
Pour être vraiment prêt, vous voyez.
Okay. Mettre de l'argent de côté.
C'est ça que tu mets derrière le mot adulte, tu mets l'argent, quoi.
Ouais,
coffrer.
Ouais.
Et pour les autres ?
Mais il faut pas de l'argent pour devenir grand.
Mais si, sinon, tu veux être SDF ou quoi ?
Mais non.
Tu veux. Attends.
Être conscient de ce qui est bien et ce qui est mal.
Être conscient de ce qui est bien et ce qui est mal. Mm-hmm. Le sage.
Moi, j'avais quand même envie de rebondir. Vous dites qu'il n'y a que les parents qui peuvent nous montrer comment faire. Et moi, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il n'y a que
dans la sphère familiale qu'on apprend à devenir quelqu'un, qu'on apprend à devenir adulte ?
Non.
Non, mais bah, par exemple, moi, je prends mon cas. Pour moi, bah, je dis que c'est les parents parce que je vis plus avec mes parents qu'avec des gens en dehors. Donc oui, tout ce qu'il y a autour, donc, que ce soit l'école, que ce soit le travail, etc., ça va nous apprendre beaucoup. Mais pour moi, la source, c'est les parents qui me le donnent, qui m'expliquent, etc. Ou même ma grande sœur ou mes grands frères. Et pour moi, c'est la famille, puisque c'est avec eux que je peux le plus en parler, entre guillemets, vu que je suis tout le temps avec eux.
En soi, les parents veulent nous apprendre, mais il faudrait que l'école apprenne aussi. Par exemple, avant, les CV, on apprenait à l'école. Les factures payées, on apprenait avant à l'école. Et maintenant, la plupart, c'est nos parents qui doivent faire. Mm-hmm. Et en plus, tout se fait par Internet. Donc, voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez les autres ? Est-ce que l'école aussi doit vous préparer ? Vous pensez que l'école aussi doit vous préparer à l'âge adulte ? À ce qui se passe après ?
Ben oui, si on pose des questions, ils peuvent répondre quoi.
Ouais.
Oui. Mmh. Si je demande à mes professeurs là-bas, je leur pose, ils vont répondre quoi. Mmh.
Oui, mais on devrait apprendre à savoir être autonome à l'école. À l'école, on nous apprend ce qui ne va pas forcément être utile. Il y a beaucoup de choses utiles, mais il y a des choses pas du tout.
Mais moi, je pense que l'école ne nous apprend pas tout, tout, tout. C'est plus les parents comme. Comme Inès, elle a dit là tantôt, bah, mm-hmm. les parents, c'est vraiment la source. Donc voilà quoi. Donc,
Et même quand elle a dit qu'il faut être autonome, pour moi, tu peux être autonome, mais il y a des choses que tu ne sais pas faire. Il y a des choses qu'il faut qu'on t'apprenne. Et mm-hmm. après, pour moi, l'autonomie, vas-y comme ça.
Ouais.
C'est pas. Enfin, je ne sais pas, pour moi, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on doit nous apprendre. Mm-hmm. Mais ce n'est pas question d'autonome ou pas autonome.
Ouais.
Après, on apprendra toute notre vie. Hein.
Mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est quoi l'autonomie, en fait ? C'est ça ? C'est quoi l'autonomie ? Est-ce qu'on peut être complètement 100% autonome, en fait, dans cette société ? Je sais pas ce que vous en pensez.
Non. Et de toute façon, tous les jours, on apprend quelque chose. Genre, même les adultes, même les personnes âgées, tous les jours, on apprend quelque chose. Il mm-hmm. y a tout le temps des choses qu'on ne connaît pas et tout. Mais l'autonomie, ce n'est pas forcément savoir rester seul, savoir faire les choses seul. Puisqu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire. Faire à manger, faire le linge, s'occuper d'une maison, s'occuper des enfants, s'occuper de nous-mêmes, des fois. Donc, il y a plein de choses. Des fois, on croit être autonome, mais en fait, par exemple, quelqu'un qui vit chez ses parents et qui va aller vivre seul, il va se rendre compte qu'en fait, pour finir, en fait, il n'était pas autonome autant que ça. Mm-hmm. Parce que chez ses parents, on n'est pas comme quand on vit seul.
Mm-hmm. Moi, ce qu'elle a dit, quand elle a parlé de faire le linge, le ménage, etc., bah pour moi, par exemple, ça, c'est un exemple où je peux dire que seule ma mère pourrait m'apprendre à faire ça. Parce qu'en dehors, on ne va pas m'apprendre à faire le ménage ou peut-être à l'école, la cuisine. Ou un peu de repassage, etc. Mais bon, pas comme ma mère, par exemple. Je sais pas. Pour moi, je serais plus à l'aise avec ma mère même qu'avec mes profs. Mm-hmm. Du coup, voilà.
Après, c'est ça aussi. C'est bien que nos parents nous apprennent ça plutôt que des parents qui nous mettent, qui nous laissent sur notre téléphone et nous disent c'est bon, je le fais à ta place. Il y en a beaucoup, je pense. Il y en a beaucoup qui ont ça. Les parents font la vaisselle, les parents font les lessives. Enfin, moi, perso, je fais les lessives quand elles travaillent. Mm-hmm.
Mais voilà. Elle est, c'est beau parce que c'est rare. Moi, j'entends rarement ça des jeunes. Tu vois, est-ce qu'il y a pas aussi des fois, est-ce qu'on n'aime pas aussi des fois rester dépendant des parents pour des choses comme ça, justement le linge, la vaisselle, les courses.
Moi, je trouve pas. C'est moi, je trouve qu'il faut aider ses parents. Surtout ma mère maintenant, elle est seule, elle est veuve et elle a deux bébés de 2 ans et 3 ans. Donc moi, je trouve qu'il faut aider ses parents. Moi, je l'aide tout le temps. Je fais presque tout. Moi, il n'y a pas que le linge. Genre, tous les jours, je l'aide à faire la vaisselle. Je l'aide à faire à manger, m'occuper de mes sœurs, leur faire le bain. Je nettoie toute la... Enfin, je fais tout, en fait. J'ai 18 ans et j'ai presque... Enfin, j'ai tout fait comme une femme, déjà. Donc, mm-hmm. voilà.
Et est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez déjà, vous, par rapport à... Ben, par après, quand vous aurez... Parce que souvent, on nous dit qu'à 18 ans, on est adulte. Enfin, en tout cas, légalement, dans la loi, c'est ce qui est dit, quoi. On atteint l'âge de la majorité. Est-ce que vous considérez qu'on est nécessairement adulte à partir de 18 ans ?
Non. Il y en a, ils sont adultes à partir de 30 ans encore. Enfin,
il y en a, ils sont adultes à partir de 15 ans même. Ouais. Pour moi, c'est ce qu'il y a dans ta tête et...
La maturité,
voilà. Et comment tu penses, comment tu entre guillemets, sais te débrouiller. Du coup, voilà. Mm-hmm.
Et aussi, je trouve, par rapport à notre vécu, il y a des gens qui ont grandi trop vite sans forcément le vouloir par rapport à leur vécu ou ce qu'ils sont passés dans leur vie. Ils ont pas eu le choix de grandir plus vite que certaines personnes, d'avoir plus de maturité que certaines personnes, de comprendre plus vite la vie. Mm-hmm. Parce que ça dépend de chaque personne, le vécu. Ouais. Voilà.
Du coup, l'âge ne fait pas tout, c'est vraiment en fait plutôt l'expérience qu'on acquiert qui fait qu'on devient mature, adulte.
Il y en a dès 20 ans, ils ne savent pas encore faire à manger des pâtes tout seuls. Alors qu'il y en a de 14 ans, maintenant, ils se font des pâtes en rentrant chez eux. Donc ça dépend aussi comment tes parents t'ont montré comment faire ça. Si t'ont direct mis à l'autonomie à partir de 3 ans pour faire des gâteaux ou autre, tu sais plus vite apprendre plus tard pour faire des trucs plus... pour te remplir le ventre le soir. Quoi.
Ouais. Est-ce que ça vous fait peur quand on, de penser à l'avenir, à l'âge adulte, entre guillemets?
Non.
Non,
bah, moi, si, j'avais peur à un moment donné, mais... Après, je suis une femme force, donc j'ai serré les coudes, quoi.
Voilà, c'est le mental donc, voilà. Qui va nous faire...
Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait.
Ouais. Et qu'est-ce qui te faisait peur, par exemple, toi?
Bah, moi, c'était plus... parce que j'étais avec ma sœur, et elle était majeure pendant que j'étais mineure. Donc, je voyais comment elle payait les factures, je voyais comment elle pleurait. Du coup, moi, je me suis dit, c'est sûr, je vais passer par là. Donc, j'avais plus peur des factures, des paiements et tout.
C'est être livré à soi-même aussi.
Ouais, voilà.
On n'a pas l'habitude... Si nos parents, ils sont pas tout le temps à la maison, ils travaillent aussi, mais on n'a pas l'habitude d'être seul à 100%. On a toujours une aide derrière, sinon on ne sait pas faire un truc. On va dire, maman, tu sais m'expliquer ça? Ou papa, hein, je dis pas.
Comme les recherches d'appartements, comment... Ouais.
Voilà, c'est par contre, voilà. Ils interviennent. Si maintenant on va dans le mauvais chemin, si maintenant on va prendre un appart à, je sais pas, à un prix, or qu'on peut en avoir des moins chers pour le début, ils vont nous faire, ouais, mais tu peux avoir moins cher par là.
Et... En dehors des parents, où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'on peut être accompagné selon vous? Est-ce que vous connaissez des endroits où est-ce qu'on pourrait...
Moi, c'est ma famille.
La famille?
Ouais.
Ouais.
Moi, je sais plus le nom du truc.
Quoi, de quoi?
Il y a une maison des jeunes.
Une maison de jeunes?
Ouais.
Ouais.
Planning familial.
Quoi? C'est quoi ça?
CPS, non?
Ouais, le CPS, ouais.
Ouais.
Actiris aussi, ils nous aident beaucoup. Il y a des pubs qui passent où si t'as besoin d'un travail ou un... truc pour t'aider, pour trouver des maisons et tout, c'est là où tu peux aller aussi.
Ouais. Actiris, c'est pas pour la recherche de maisons, par contre. Hein. Ça, c'est bien de... Mais vous arrivez à identifier ces différents services, en quoi ils peuvent vous aider. Et CPF, par exemple, vous savez à quoi...
Il y a les intérims aussi.
Les intérims, ouais. Et si vous posez des questions, par exemple, à votre orientation d'études, peut-être plus tard?
Bah, chez vous, aussi, on peut.
Aussi, ouais. Les services de l'aide à la jeunesse, tels que les AMO.
Mais sinon, on peut aussi en parler à nos profs et eux nous dirigeront vers là où il faut aller.
Mm-hmm. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Par exemple, dans l'école où on est, les profs...
Il y a l'EPMS.
Il y a certains profs aussi qui nous parlent pour essayer de nous diriger. Par exemple, moi, je voulais arrêter l'école, mais c'est grâce à un prof de mon école que je vais continuer. Parce qu'il,
moi aussi.
Il m'a redirigé, il m'a aidé. Et il m'a parlé pendant très longtemps. Et du coup, voilà.
Après.
Moi aussi, mon prof de français, ou. Bref, tous les autres profs m'ont aidé à rester au voyage. Même si ça fait beaucoup d'années que j'ai repassé la même année, je suis toujours là.
Il y a des profs, ils prennent leurs heures de cours pour nous expliquer, pour ne pas se tromper dans nos choix de métier.
Ouais, c'est vrai.
Ils vont nous expliquer ce qu'on devra. Savoir, faire et les heures qu'on aura en particulier de ça ou ça. Parce qu'on ne peut pas aller dans une option et se dire l'an prochain je change parce qu'on doit recommencer alors l'option totalement.
Et c'est bien. Et vous allez vous spontanément vers vos professeurs quand vous posez des questions justement pour leur demander, prendre des renseignements?
Non, mais le plus souvent ils le voient à nos têtes qu'on a des questions sur ça.
C'est bien. Booba, trop.
Il n'y a pas de loi ici, s'il y a Sinaloa. Il fait beaucoup trop noir ici, viva la vida loca. Ils ne veulent pas nous voir ici, non. Je suis ce nègre au fond du wagon. J'ai un cœur tombé du camion, le sourire au bout du canon. J'aime l'argent mais je préfère avoir le temps. Tu as l'âme, encore faut-il avoir le cran. Pour le trône tout se règle par le sang. Sur le macadam, les mômes ne respectent pas les grands. Sombre étoile, triste mélo. Dinero, où es-tu, dimelo? Je ne suis plus très far away. Je suis prêt pour le main event. Laisse les yeux, c'est pas la fête. Quand
Dieu est tombé sur la tête. L'équipe adverse marque la schneck. Sur le billet vert marque la bête. Tu viens de baiser, t'auras pas la chaîne thune. T'es témoin d'un mariage qui entre une calache et une plume. T'en as deux, une dans la bouche et l'autre dans le croissant de lune. Plusieurs neuf, ils critiquaient mais on te saigne l'autotune. On ne remettra pas les chaînes, je pèse la vie comme une chienne qui a pas de prénom. Qu'on se les fente, qu'on les bobine, j'fuis mes démons. On ira tous en tôle si tu donnes des noms. Game est dans le froco, j'crache fumé, peste de white widow par la window, faudra passer sur le corps, impossible sur le réseau. Tu ne meurs jamais, toi elle brillera dans le bendo. Mais j'n'en suis pas resté là, sombre pirate, je n'ai jamais chez là. Qu'il tombe bon pour un fan, donne-moi la main, mets-toi sous mon ombrelle. Sombre histoire, triste mélo, dinero, où es-tu, dimelo. Je ne suis plus très far away. Dinero, où es-tu, dis-moi. Baisse les yeux, c'est pas la fête. Mon Dieu est tombé sur la tête. L'équipe adverse marque la schneck. Sur le billet vert marque la fête. Il n'y a pas de loi ici. S'il y a Sinaloa, il fait beaucoup trop noir ici. Viva la vida loca. Ils ne veulent pas nous voir ici, non. Je suis ce nègre au fond du wagon. J'ai un cœur tombé du camion, le sourire au bout du canon. Laisse-moi rêver, laisse-moi rêver. Laisse-moi rêver, laisse-moi rêver.
On parlait juste avant des questions de transition vers l'âge adulte et tout ce que ça vous posait comme question. Et j'allais vous demander aussi si vous n'étiez pas parfois inquiet par rapport au futur, votre futur, compte tenu de la société dans laquelle on évolue. Est-ce que ça vous pose question? Est-ce qu'il y a des choses qui vous posent question?
Avant de commencer, à l'époque, on disait que devenir attendre. Être adulte, c'était l'âge des Vikings, c'était de tuer une personne. Oui. Donc c'était comme ça. Si tu voulais être adulte à l'époque, au 9e siècle, c'était de doter la vie d'une personne.
Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu essaies de nous faire passer comme message par là, le sage?
Ah, c'était que si tu veux être conscient, c'était de avoir vécu une tragédie. Mm-hmm. Et donc voilà.
Donc à l'époque, la transition vers l'âge adulte était assez ritualisée. Voilà. C'est ça. Ok.
Bon, on va passer sur un autre sujet. Hein. Parce que vous nous parliez aussi pendant la préparation des réseaux sociaux et du harcèlement. Et j'avais voulu vous demander déjà, est-ce que vous êtes vous sur les réseaux sociaux?
Oui.
Et oui. Sur quels réseaux sociaux vous êtes?
Oui,
Snap, Insta, WhatsApp,
Twitter,
Viber,
Telegram, Messenger,
Telegram,
Facebook, tout.
Hein? Candy Crunch.
Elle est bonne, Inès.
Et comment vous utilisez, vous, les réseaux? Ça vous sert principalement à quoi, les réseaux sociaux?
Parler à la famille, aux amis et tout.
Et pour les autres?
Partager des choses qu'on fait. On met des stories, on met des vidéos, on met des photos de nous.
En fait, les réseaux sociaux, pour moi, ça sert à rien. Parce que sur les réseaux sociaux, tu peux tout trouver et n'importe quoi.
Ouais.
Et voilà, genre, c'est pas inutile. C'est inutile, en fait.
Désinstalle, alors.
Non, parce qu'on peut parler à nos familles.
Ouais. Pour moi, je suis mitigée. Parce que je suis un peu d'accord avec Céré et un peu d'accord avec Hélène. Pour moi, ça sert dans le sens où on peut communiquer avec nos proches. Parce que moi, par exemple, j'ai des proches qui viennent pas de Belgique. Mm-hmm. Voilà, donc je peux communiquer avec eux. Mais pour moi, il y a des fous, des fois, sur les réseaux. Des psychopathes, il y a des détraqués sexuels. Il y a plein de sortes de gens sur les réseaux. Et pour moi, ça peut même jouer des fois sur ton moral à toi. Parce qu'avec les faux comptes, des fois, il y en a, ils prennent tes photos,
ils font un faux compte et ils se font passer pour quelqu'un que toi, tu n'es pas. Mais les personnes derrière, ils ont ton image en tête. Mm-hmm. Donc, si après, ça se sait et qu'on te voit dans la rue, quoi, ça peut te rendre parano... enfin, ça peut te rendre malade.
Oui.
Après, il y a le harcèlement aussi derrière les réseaux.
Mais les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. C'est pas réel.
C'est pas réel. Ouais.
Après, je pense que beaucoup vivent par les réseaux sociaux maintenant. On va aller manger quelque part. La plupart vont le mettre en story, en flamme, snap et autres.
Et aussi, on est beaucoup influencés, je trouve. Mmh. Exemple, des influenceuses, ils ont, on va dire, un corps
parfait,
entre guillemets. Mais nous, on est grave influencés sur ça. Bon, moi, je suis pas influencée parce que je suis confiante en moi, mais...
Il y a des jeunes de 14 ans, ils veulent le corps que ces influenceuses ont, or que la plupart, ils sont forcés à être maigres ou à avoir mangé plus pour pouvoir faire ça.
Il y a aussi, je sais plus c'est qui a dit que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie.
Ouais.
Donc, pour moi, il y en a, ils savent que c'est pas la vraie vie, mais comment on le voit? Quand on voit, par exemple, quelque chose, on ne va pas se dire « Ah, ça, ce n'est pas la vraie vie. » La personne, elle filme sa vie, donc nous, dans notre tête, on va se... voilà, pour nous, c'est réel. Mais on ne voit pas ce qui se passe derrière tout ça.
Oui.
On sait pas, pour nous, en fait, on montre ce qu'on veut montrer, quoi. C'est tout. C'est la vraie vie, mais que ce qu'on veut montrer.
En fait, les enfants, ils sont trop influencés dans cette génération. Parce que genre, en mode, il y a des filles de 12 ans, elles regardent des influenceuses et elles veulent trop vite grandir, elles se maquillent comme si c'était une femme de 20 ans, alors que c'est encore qu'une gamine, elle a que 12 ans. Mm-hmm. En fait, les petits, ils veulent trop grandir en voyant des influenceurs ou des influenceuses sur les réseaux.
Moi, je pense que c'est aussi la faute des parents, tout ça. Parce que si les parents... si les parents interdisaient aux enfants moins de 12 ans ou moins de 11 ans d'avoir un téléphone en GSM, je pense pas que tout ça allait arriver, quoi.
Voilà.
C'est la faute vive des parents, mais...
Mais non, maintenant, il y en a, ils ont des téléphones à 10 ans, or que nous, on les a eu la plupart, entre guillemets, à 15-16 ans. Ouais. Et encore, il y en a, ils ont des tout petits téléphones à clavier, encore maintenant, pour éviter les réseaux.
Moi, je suis pas trop d'accord. Pour moi, c'est pas la faute des parents, parce que il y en a, ils interdisent à leurs enfants un téléphone. Mais l'enfant, par exemple, s'il va à l'école et que, je sais pas moi, il a une meilleure amie, sa meilleure amie, elle a un téléphone. C'est-à-dire sa meilleure amie, elle est influencée par le maquillage, les vêtements, etc. Donc, la petite qui n'a pas de téléphone, elle va se faire influencer par sa meilleure amie. Mm. Donc, pour moi, ce n'est pas spécialement...
Oui, c'est pas uniquement parents. Par le téléphone qu'on peut être influencé, quoi, de toute manière.
Moi, je suis d'accord avec Inès. Je trouve que c'est pas la faute des parents, parce que même si l'enfant il a pas de téléphone, ou les parents ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, interdire tout ce qu'ils veulent. Quand ils vont aller à l'école, ils peuvent toujours trouver un moyen de faire quelque chose. Comme elle dit, les fréquentations à l'école. En fait, ils vont voir tout le monde qui fait ça, ça va les influencer à faire la même chose, même s'ils ont pas de téléphone à la maison, quoi.
Et comment Ella, tu voulais réagir?
Après, c'est comme influencé par le maquillage, mais il y en a beaucoup aussi, c'est par la cigarette. Il y en a, ils vont fumer devant l'école, ils vont proposer à leurs potes, ils vont dire oui.
En fait, j'ai l'impression que...
Je suis vraiment d'accord sur ce sujet.
Plus la génération grandit, et ben plus ça change, genre... ça devient de pire en pire, en fait.
Et c'est aux parents aussi de mettre des limites, parce qu'il y en a, ils savent très bien que ils achètent le maquillage à leur enfant. Ils achètent les vêtements à leurs enfants. Donc, c'est eux qui ne mettent pas de limites. Après, il y en a, ils mettent des limites. Et après, ils reçoivent par leurs amis, comme Inès avait dit. Et voilà.
Mmh. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, ce n'est pas la faute des parents. Dans ça, hein, pour moi, ce n'est pas la faute des parents. Parce que tu as beau mettre des limites, tu peux mettre toutes les limites que tu veux, toutes les punitions que tu veux. Si l'enfant, il a vraiment, réellement envie de faire quelque chose, il va le faire et dans ton dos. C'est-à-dire, même si... Par exemple, comme elle a dit, même s'il lui achète du maquillage ou il lui en achète pas, elle va, si elle veut vraiment se maquiller, elle va tout faire pour s'en procurer. Et qui te dit qu'elle va pas se maquiller, je sais pas moi, en sortant de sa maison, se démaquiller avant de rentrer à la maison, et ses parents, ils vont rien savoir. Dans la tête de leurs parents, ça sera en mode, ah bah, elle se maquille pas. Mmh. Sauf que
Elle le fera peut-être en cachette.
Voilà. Moi, il y avait beaucoup de filles dans mon ancienne école qui faisaient ça. Dès qu'elles arrivaient à l'école, elles se maquillaient. Et quand elles partaient, elles se démaquillaient. Il y en avait même qui se voilaient devant leurs parents. Et dès qu'ils venaient à l'école, ils se mettaient des tenues rien à voir avec leur voile. Donc, voilà.
Et comment on fait pour se protéger de tout ça? Parce que vous parlez de tous ces dangers de l'influence, du harcèlement.
Déjà, c'est le mental. Il y en a, ils se font pas du tout influencer. Et on a des vont se faire influencer 10 fois plus vite que nous.
Bah moi, je pense que juste les réseaux sociaux doivent mettre des limites, c'est tout.
Oui.
Parce que là, il n'y en a pas du tout. À part TikTok, je pense, il y a des limites, je pense. Non. Bah, moi, je pense que les réseaux sociaux doivent mettre juste des limites.
TikTok, ils sanctionnent très, très vite.
C'est ça, en fait.
Encore, ils mettent des âges. Il y a beaucoup de réseaux, par exemple Snap, c'est...
Non, Snap, maintenant, ça... Désolée, Snap, ça a beaucoup changé parce que Snap, ils mettent maintenant des numéros, vraiment des trucs vraiment, tu vois.
Oui, mais maintenant, ils demandent un âge sur tous les réseaux, mais tu choisis ton âge, c'est même pas en fonction de tes mails ou quoi. Donc, avant, petite, j'ai déjà fait ça et clairement, je désobéissais, mais je mettais 1980, j'avais 10 ans. Donc, en fait, c'est pas vérifié. Et sur TikTok, c'est plus sécurisé parce que le plus souvent, les jeunes, ils montent leur tête. Du coup, soit ils sont bannis, soit ils sont signalés ou ils ont des avertissements. Après, ça dépend.
Je suis grave pas d'accord. TikTok.
TikTok. Explique-nous, Inès.
TikTok, des fois, il y en a, elles se mettent en maillot de bain. Ça les signale pas. Mais des fois, il y en a, elles vont... Il y aura un peu de fumée. Par exemple, quelqu'un va fumer à côté d'elle. La fumée, elle va un peu s'évaporer dans la vidéo. Là, ça sera à incitation, je sais pas quoi.
Danger pour le
public. Voilà. Or que clairement, là, si je peux ouvrir mon TikTok, il y a des trucs de fou. Hein. C'est pire que Twitter, des fois, TikTok.
Ouais. Oui.
Et vous parlez des limites. Et quelles seraient les limites Tu disais parler des limites pour le Black Woman. Quelles seraient les limites qu'ils devraient mettre, en fait
Rien que les âges.
Bah ouais, c'est les âges, en fait. C'est les âges, comme Elie vient de le dire. Ouais.
Effectivement.
Donc voilà.
Parce qu'on a des enfants, pas enfants, enfin ça dépend, l'âge aussi qu'on a, mais des enfants de 13, 12 ans qui viennent s'abonner à toi et mettre des commentaires plus hauts que des enfants de 17, 18 ans. Enfin.
Moi je pense que c'est à partir de 17 ans qu'on doit avoir les réseaux sociaux.
À partir de 17 ans ?
Ouais, je pense.
Ouais,
enfin, c'est mon avis. C'est mon avis.
Est-ce que vous êtes d'accord, les autres?
Non.
Qu'à partir de 12 ans...
Moi aussi, je suis pas d'accord.
Non, la raison.
Alessia.
Moi, j'ai...
Ouais. Non, pas 17 ans. Parce qu'à partir de 10 ans, il y en a, ils veulent déjà parler à leurs parents. Encore, ils ont juste les messages ou Messenger, ok.
Oui, mais genre quand
il y a des applications à pas avoir à 16, 17 ans. Mm-hmm. Ok, même plus petit. Mais il y a des applications, faut leur laisser pour pouvoir parler aux proches s'il arrive un truc ou quoi.
Mais pour ça, il y a les appels et SMS. FaceTime, hein. Ouais.
Aussi. Alicia, tu voulais réagir ?
Oui, effectivement, l'abonnement.
Et selon vous aussi, pour revenir un peu sur la question du harcèlement, parce que vous en avez aussi beaucoup parlé, pourquoi on harcèle en fait ? Pourquoi les gens harcèlent ?
L'effet de groupe.
L'effet de groupe où certains sont jaloux de la personne et voilà quoi.
Ouais.
Et c'est souvent aussi quand les gens s'ennuient, ils se disent que en harcelant les gens, ça va amuser, ça va amuser du coup le groupe et tout, alors que c'est méchant parce que du coup si la personne se fait harceler, c'est différent.
Ouais.
Et aussi il y en a qui font ça pour se donner un genre, pour paraître, alors que voilà.
Alors qu'en vrai c'est pas trop ça.
Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a parfois des personnes qui sont plus sujettes ou victimes de harcèlement que d'autres?
Oui.
Oui.
Ou ça dans l'école?
Ceux qui sont souvent...
Si on banalise.
Pas nécessairement.
Si on banalise le truc... Ceux qui sont le plus souvent harcelés, c'est les intellos, entre guillemets, qui sont devant les profs et font les lèche-bottes.
Ou aussi les gens les plus calmes, je trouve.
Oui, ouais, ceux qui ont moins de caractère.
Ouais, parce qu'on néglige trop les gens calmes. Ouais. Parce que les gens calmes, s'ils s'énervent, ils s'énervent.
Plus de caractère.
C'est plus facile d'attaquer une fille calme ou une personne calme, enfin, peu importe. Ouais.
Est-ce que vous avez déjà été, vous, témoin ou victime de harcèlement?
Oui.
Ouais.
Moi, j'ai été témoin.
Oui.
Moi aussi, témoin.
Et comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Comment vous avez vécu ce moment?
Moi, si je suis témoin, je fais tout le temps quelque chose.
Ouais.
Genre, ça me fait trop de la peine, donc je suis obligée de.
Mais moi, c'est même pas par un enfant que j'ai été victime, c'est par un prof.
Moi, ma meilleure pote, elle était victime, c'est ça? Victime d'harcèlement. Ouais. Vu que moi j'ai essayé de parler avec elle, j'ai dit ça à ses parents, on est parti à la police et tout, après ça s'est arrangé.
Okay.
Après, voilà. Les profs, ils disent souvent qu'ils essayent de régler ça, mais il y en a certains, eux-mêmes, ils tiltent pas, mais ils le font parce que toutes mes primaires, j'ai eu 3 ans la même prof et 3 ans, c'était les mêmes galères avec elle.
Moi, des fois, je trouve que les profs, ils abusent un peu parce qu'il y a des gens qui se font harceler et... On dit qu'il faut pas être, se laisser faire, il faut pas être trop calme et tout, mais quand la personne, elle réagit ou quoi, elle insulte, ou même des fois, elle, ça vient en main, ben, on vient dire que la personne aussi, elle est coupable, elle est, alors qu'elle, elle se défend et c'est tout. Moi, j'ai vu beaucoup de trucs comme ça dans mon ancienne école, où il y avait une fille, c'était une lesbienne, et du coup, c'est pour ça qu'elle se faisait harceler et tout. Et il y avait plein de gens qui allaient sur elle et tout. À un moment donné, elle en a eu marre, elle a commencé à insulter et tout. Et il y a une fille qui est venue sur elle pour la frapper. Elle s'est défendue, elle a frappé. Elle a eu, elle aussi, des jours de renvoi. Alors que la fille, elle en avait juste marre, en fait.
Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font rien à l'harcèlement. Ils attendent que... Par exemple, moi, j'ai été victime d'harcèlement. Et les gens m'ont clairement dit qu'ils attendaient que je me fasse frapper pour avoir du coup la preuve d'un harcèlement. J'ai pu montrer des audios ou des menaces ou des preuves comme quoi il y avait des gens qui m'harcelaient depuis longtemps et ils me disaient clairement qu'il fallait avoir une vraie preuve physiquement sur moi ou quoi. Et là, on pouvait sanctionner légèrement les personnes.
C'est violent, ça.
C'est ce que Alicia disait, c'est tout à fait ça parce que la plupart, moi, dans ma famille, ils ont vécu comme elle. On a beau photocopier les preuves par message avec les éducateurs de l'école et tout, tant qu'il n'y a pas de preuves sur nous, ou des bleus, ou des coups sur nous, moi, ils attendaient que mon frère se fasse racketter tout, et des coups pour pouvoir porter plainte, et qu'ils réagissent.
On arrive à la fin d'émission, et du coup, j'aurais envie de vous dire, est-ce que vous auriez un message à passer aux personnes qui harcèlent, aux harceleurs, ou aux personnes qui sont témoins de harcèlement?
Qui prennent soin d'eux.
N'harcelez pas.
Soyez vifs, les gars.
Ça se fait pas.
Ne faites pas ce que vous voulez pas qu'on vous fasse.
Appelez la police, c'est mieux. Ils vont gérer ça.
Parlez-en autour de vous, ça c'est trop important.
Ouais. Voilà.
Et qu'ils ne se laissent pas faire.
Gardez pas pour vous, parce que après, ça fait mal au cœur et ça peut aller loin. Bah, voilà.
C'est ça.
Et même s'il y en a, ils ne sont pas à l'aise d'en parler à leurs parents ou parce qu'ils ont honte ou quoi, mais il y a plein de gens autour, même des associations, je pense.
Les PMS à l'école.
Ouais, voilà.
Faut en parler, faut pas rester enfermé sur soi-même.
Même parler à des inconnus aussi, ça aide. Donc, ouais, c'est vrai. Les inconnus aussi peuvent toujours aider. Après, c'est rare, hein, mais.
Eh ben, je vous remercie. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous. Merci.
Avec plaisir.
On va clôturer avec Sandra, passer tout ce qu'elle rentre.
Fanny, remplis à ton corps. Merci.
Pourquoi t'as toujours rêvé? Je te sens si sensible, mais tu m'as l'air inaccessible. Parle-moi de toutes tes peurs. Pourquoi tous ces changements d'humeur?
Samarconde.